CFM, le mag.
Le magazine d'actualité de ce jeudi 29 avril. Bonjour tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre les jeudis pour cette première partie. De coutume, tour d'horizon des titres dans l'actualité à l'occasion de la parution du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois. Une revue de titres donc présentée par Éric Lachand. Bonjour Éric.
Bonjour David.
Éric Lachand, chef d'édition, journaliste au Villefranchois, en revue de titres qui débute aujourd'hui et cette semaine avec l'info de la semaine.
Alors l'info de la semaine, c'est évidemment à deux mois des élections départementales et régionales, c'est un tour d'horizon concernant les élections départementales. Pourquoi on commence par les départementales? Parce que d'abord c'est une élection qui est plus de proximité, on va dire, que l'élection régionale. Il y a beaucoup plus de candidats sur notre secteur, puisque il s'agit pas d'un scrutin de liste comme les régionales où chaque état-major de parti établit sa liste pour chaque département. Là, donc, nous faisons un tour d'horizon complet des forces en présence sur l'Ouest Aveyron à l'instant T, c'est-à-dire donc aujourd'hui, avec canton par canton les candidats sortants qui, dans une très grande majorité, voire la totalité des cas, se représentent. Et qui vont-ils avoir en face, pour briguer la place de conseiller départemental, donc une élection qui aura lieu en juin prochain. Alors d'abord, il faut constater que ces élections devraient en principe conforter les élus sortants, hein, parce que le contexte ne permet pas véritablement de mener une campagne de longue haleine, donc sauf quelques surprises ici ou là, on devrait avoir les mêmes conseillers départementaux qui seront reconduits, donc ça n'aura pas véritablement d'incidence sur la composition de la majorité départementale.
Donc pour nous ici, c'est Éric Antournet,
Stéphanie Bayol. Bon, pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a pas de candidat en face, bon, même si il se dit que il y aurait quelques velléités de la part de Christophe Pourcel de se présenter pour faire une alternative de droite, enfin de centre-droit, au binôme Cantourné-Bayol qui est de centre-gauche. Voilà. Donc, ce seraient les seuls candidats potentiels. Alors, par contre, au niveau du Rassemblement national, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Donc, bon, tout ça, c'est encore un petit peu soumis à cet inconnu.
Europe Écologie Les Verts aussi, de coutume.
Alors, Europe Écologie Les Verts, hormis sur le canton de Rieux-Pérou, on n'a pas véritablement pour l'instant de candidat qui se serait déclaré. Mais ça peut venir effectivement. Mais bon, effectivement, dans le Ségala, dans le canton Aveyron-Tarn, il y aura la candidature de Guy Pesé sur une liste de rassemblement. Voilà. Donc, nous vous présentons l'ensemble de ces informations concernant les élections départementales dans notre parution. Et puis, le véritable suspense, désormais, c'est...
C'est la tête du conseil départemental.
Ah, là, le conseil départemental. Qui va prendre la tête de la majorité départementale? Est-ce que Jean-François Galliard, qui est l'actuel président du conseil départemental, va réussir à sauver son siège face à un Arnaud Viala qui semble avoir rameuté le banc et l'arrière-ban des conseillers départementaux de la majorité. C'est un petit peu l'inconnu, même si aujourd'hui, il semble que Arnaud Viala parte un peu favori par rapport à cette course.
On poursuit, c'est la revue de titre et l'essentiel de l'actualité présentée par Éric Lachand, journaliste, chef d'édition au Villefranchois avec l'initiative citoyenne de la semaine.
C'est via la plateforme de dialogue citoyen PopVox que la mairie de Villefranche a souhaité prendre le pouls de la population avec donc une application qui permet de présenter des projets à la municipalité, de proposer des réalisations qui bénéficieront d'un budget participatif qui a déjà été acté au niveau municipal. Donc c'est la première fois que que la mairie de Villefranche dote d'une enveloppe de 50 000 euros une ligne budgétaire destinée à financer des propositions émanant des citoyens. Voilà, c'est cette application et les modalités pour déposer les projets que nous vous présentons dans cette édition.
La revue titre, à la suite avec un succès cette semaine qui nous vient de l'agroalimentaire et de la fabrication artisanale.
Oui, tout à fait, puisque les fins gourmets ont été récompensés d'une médaille d'excellence, d'un prix d'excellence pour leur magret et leur foie gras. Donc c'est une très très belle réussite parce que bon, le concours général agricole, c'est quand même ce qui fait référence en matière de qualité dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, eh bien, une entreprise de notre secteur se voit décerner ce prix d'excellence, alors Cocorico. Et bravo donc à Patricia Bedos, qui est l'une des personnes qui s'occupe du magasin des fins gourmets à Villefranche-de-Rouergue.
On poursuit avec un petit tour du côté des cantons. Pas d'animation du week-end, toujours pas, mais peut-être bientôt.
C'est vrai que, bientôt. On croise les doigts, ça va bientôt finir cette histoire de Covid, on l'espère. Du côté des cantons, c'est toujours l'agroalimentaire finalement qui fait l'info de la semaine, puisque c'est la guerre du cassoulet qui est déclarée du côté de Cap-de-la-Gare, où l'entreprise Rénal et Roquelaure commercialise un cassoulet de Castelnaudary qui a fait bondir les membres de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary. Alors ça fait longtemps déjà qu'il commercialise ce produit. Mais une campagne publicitaire a mis la puce à l'oreille de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary. Et il y a eu une prise de bec entre les différents protagonistes, à savoir la confrérie et l'entreprise Rénal et Roquelaure, sachant que Rénal et Roquelaure a tout à fait dans son droit, sur le plan légal, de fabriquer du cassoulet de Castelnaudary, parce que la confrérie et les producteurs de cassoulet de Castelnaudary n'ont déposé aucune IGP, donc indication de géographique protégée, ou ni même déposé le nom de son cassoulet à l'Institut national de la propriété industrielle. Donc ils se retrouvent un peu dans l'impossibilité de faire valoir leur droit concernant l'utilisation du mot cassoulet de Castelnaudary. Alors évidemment, ce cassoulet fabriqué en Aveyron répond tout de même à un cahier des charges bien spécifique. La viande de porc est issue de la région, le confit de canard est du sud-ouest, les haricots sont bien conformes à ce qu'ils doivent être.
Mais c'est pas la même recette.
La même recette, on ne sait pas. Écoutez, les spécialistes du cassoulet départageront les belligérants. On verra qui gagne à la sortie. Écoutez, le mieux c'est de les goûter, effectivement. Si vous aimez le cassoulet, il faut goûter les deux puis se faire une idée. Et se faire une idée par son palais, non pas par l'étiquette qui est revendiquée. Enfin bon, c'est une petite histoire qui pourrait être anecdotique s'il n'y avait pas derrière de gros enjeux industriels, bien sûr, et puis de l'emploi aussi pour le secteur de l'agroalimentaire.
Ça rappelle l'histoire qu'on a connue il y a quelques années avec la gueule. Je crois savoir qu'on était
avec
un peu dans
la gueule,
la même chose.
Le nom n'avait pas été déposé, et puis pour les couteaux. Et donc, il fallait presque...
On pouvait en fabriquer n'importe où,
au Pakistan, partout. Et voilà, donc aujourd'hui, je crois que les choses ont été un petit peu ficelées. Il y avait l'histoire de la feta aussi. Ah. Vous vous souvenez que...
Ah oui, ça me dit vaguement quelque chose.
Les Roquefort Société fabriquait de la feta. Et bon, les Grecs ont dit, la feta, c'est plutôt grec qu'avéronais. Donc aujourd'hui, ils ont réussi à faire valoir leurs droits et on ne peut plus appeler feta le fromage de brebis qui est fabriqué à l'identique de la FETA par la société par Roquefort Société.
Non, on l'appelait FETOU.
Voilà, on aurait pu faire ça, effectivement. Il était aussi bon que le grec. Hein.
On retrouve l'ensemble des titres développés dans l'apparition du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois, mais pas que. On a d'autres aussi à découvrir. Merci Eric. Excellente semaine, excellente journée. À la semaine prochaine.
Au revoir.
La suite du programme. Un petit peu de musique et j'accueille dans les studios Mirsa Moreau, Dromard et Nicolas Viala de Decazeville Communauté. Retour sur ce qui a été retentissant 2019 et qui continue à l'être, le premier festival de street art, Murmure Festival, qui trouve un écho et un prolongement aujourd'hui et d'ailleurs dès la semaine prochaine sur la ville de Cransac avec l'intervention de deux artistes de notoriété internationale avec une première performance du 3 au 11 mai et puis un petit peu plus tard, au mois de juin. On parle de tout ça après une rapide respiration musicale.
CFM, le mag.
Joindre, soyez les bienvenus. Deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité. Il se murmure du côté de Decazeville que l'événement, qui on peut le dire, a tenu toutes ses promesses en 2019, le premier festival de street art. Il se murmure qu'il va trouver un nouvel écho les jours à venir, comme un prolongement naturel, comme une évidence peut-être même. Bonjour et bienvenue, Mircea Moreau-Dromard et Nicolas Viala.
Merci et bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans ces studios pour nous parler de street art et du prolongement que j'évoquais sur les murs de Cransac. Ce coup-ci, Cransac, ses thermes, son casino et bientôt ses fresques. Deux nouvelles fresques programmées là sur la semaine prochaine et fin juin de la même manière avec l'intervention de deux artistes, mais on ne pourra pas dire les noms, je crois savoir aujourd'hui, deux artistes de notoriété internationale. En tout cas, je tenterai tout de même d'obtenir les noms. Mircea Moreau-Dromard, vous êtes responsable des affaires culturelles pour le compte de la communauté de communes de Decazeville, Decazeville Communauté qui regroupe 12 communes. Et Nicolas Viala, vous êtes chargé de projet street art et vous avez notamment été à la manœuvre sur la construction du premier festival de street art en 2019, le Murmure Festival bien nommé. Mircea Moreau-Dromard, ça fait quasiment 3 mois que vous avez pris vos fonctions de responsable culturel. C'est tout frais, tout comme votre regard sur le territoire, je l'imagine. Quand on arrive comme ça, on voit très vite les qualités, peut-être ce sur quoi il faut travailler, en tout cas le potentiel du bassin. Votre regard, c'est quoi ?
Alors, la première chose que je retiendrai de mon arrivée, c'est un accueil particulièrement chaleureux de la part à la fois des collègues, mais aussi de la part de tous les acteurs du territoire que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant. Et puis, c'est la richesse de ce territoire. Donc à la fois un côté très urbain et puis un côté très rural. Et ces deux faces qui pourraient s'opposer au contraire, en fait, se complètent parfaitement et nous permettent d'imaginer des interventions culturelles d'abord avec les gens qui habitent sur le territoire. Et c'est ce qui est le plus important, c'est d'aller chercher toute cette richesse qu'il y a et de la mettre en valeur, de valoriser ces personnes qui vivent là. Et puis de faire en sorte qu'elles soient heureuses là où elles vivent.
Ça compte quand même, c'est pas rien, et la culture a un vrai rôle à jouer. Votre regard sur l'initiative portée par donc l'équipe qui était en place en 2019, c'est quoi ce premier festival de street art quand même à Decazeville, qui a l'idée génialissime. Quand on intègre ce poste, on doit se dire si ça c'est possible, waouh, je vais professionnellement me régaler.
Oui, alors la première chose, c'est les retours des gens qui ont pu assister à ces moments-là et qui font écho d'une formidable émotion et d'une formidable fierté de voir sur les murs de cette ville à la fois une esthétique, à la fois des couleurs, à la fois de la vie et puis l'attractivité que cela a déclenché, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont venues dans leur ville pour visiter leur ville. Et c'est surtout ce sentiment d'avoir quelque chose de vivant, d'avoir de nouveau de la circulation et de se dire que finalement ils vont pouvoir continuer, qu'ils vont pouvoir se relever d'un passé qui est parfois encore très douloureux et parfois assez difficile encore dans le quotidien.
Au-delà du fait artistique, c'est un projet qui a de nombreuses portes d'entrée. On peut donner la parole à Nicolas Viala, chargé de médiation au service action culturelle et sociale pour Decazeville Communauté, mais aussi et surtout le grand chef, le grand manager chargé de projet street art pour Decazeville Communauté. Nicolas Viala, non, je dis ça, mais ça vient un petit peu de vous, cette histoire, parce que moi, je me régale à écouter cette anecdote et le point de départ. C'est pas 2019, mais 2017. Voilà, si on pouvait commencer par ça avant de dérouler sur le bilan.
Bah, alors le grand Manitou, sans prétention quand même.
C'est moi qui le dis, donc ça
voilà,
va.
Bon, ça va. Et ouais, le pas de côté a été forcément rigolo. C'est l'histoire aussi qu'on a racontée et qu'on a aimé raconter. L'histoire d'une communauté qui est d'un service culture qui réfléchit et qui se dit tiens, voilà, le street art, c'est vraiment l'art actuel, c'est vraiment ce qui peut coller au territoire, c'est vraiment ce qui colle avec tout un tas d'objectifs qu'on a depuis des années. C'est du coup une recherche pour arriver à justifier auprès de notamment de nos élus, faire des propositions riches, des scénarios, et leur permettre de faire des bons choix. Et donc c'est toute une phase d'études, etc., qui match vraiment bien. Et puis c'est l'été des vacances, et puis un artiste vient, et puis fait un graffiti, mais sans absolument pas savoir où on en était avant. Et là, c'est le début de quelque chose où on se dit, voilà, on est une institution. En théorie, on sanctionne les artistes qui créent dans l'espace public sans autorisation. Et si justement on montrait et on participait un peu à ce mouvement culturel en disant ben oui, d'accord, ça a été fait comme ça, mais on va peut-être rebondir et inviter cet artiste aussi à faire un mur, mais ce coup-ci officiel. Et de là, à force de travail, et c'est vraiment une équipe hein, qui a travaillé autour de tout ce projet. Le projet s'est monté jusqu'à sa finalisation et jusqu'à les effets qu'on a pu connaître. Quoi.
Oui, largement médiatisé aujourd'hui de Cazeville. Oui. C'est la capitale aveyronnaise du street art. Hein. Oui, Il y a le viaduc de Millau pour le sud d'Aveyron. Nous, à l'ouest, on n'a pas à rougir de ce qu'on a non plus. Non. Et c'est un immense et beau succès, largement médiatisé depuis deux ans. Oui. Reportage télé, magazine, radio. Enfin, voilà, j'imagine que à la plus grande satisfaction et des élus aussi du territoire et des gens qui ont travaillé sur le projet.
C'est vrai. Ce qui était important pour nous, c'était aussi de donner quelque chose à l'Aveyron et pas seulement de rester entre nous. Et ça fait partie de l'élément de fierté et de notre histoire aussi, puisque le territoire a largement contribué à l'histoire aveyronnaise. Hein. De Cazeville, c'était la capitale, quelque part, avant, qui comptait énormément d'habitants, où il y avait les premiers cinémas, les premiers magasins, les premiers... les premiers concerts, les premiers tout ça. Et donc amener aussi quelque chose au département, une spécificité qu'on n'avait pas, trouver un sujet qui était justement pas concurrentiel quelque part, bien qu'en culture, je n'aime pas parler de ça, qui venait pas gêner une autre ville. Quoi. Mmh. Et cette originalité, oui, voilà, c'est aussi un atout et c'est important de le dire pour l'Aveyron. Et on a vu justement, nous, dans les fréquentations du public, des gens venir de partout, au-delà même du territoire national, et découvrir à la fois de Cazeville, mais aussi Rodez, mais aussi Villefranche, enfin voilà, en profiter pour la gastronomie, pour tout l'aspect culturel. Donc on avait aussi à cœur de contribuer modestement à tout ça.
Aujourd'hui, c'est un parcours street art qu'on peut fréquenter. Il y a l'aspect touristique. Il y a tellement de portes d'entrée sur ce projet. C'est quand même assez éblouissant. Il y a l'urbanisme, le tourisme, l'art, l'artistique, l'aspect artistique, le lien social aussi. Ça compte. C'est vraiment, voilà. Et pourtant, le street art à De Cazeville, c'est évident, mais c'était pas tant que ça évident. Et j'imagine qu'il a fallu convaincre aussi un petit peu. Bousculer un peu les mentalités.
Oui, forcément. On est arrivé où le street art, on ne savait pas, ou l'art urbain, on ne savait pas trop ce que c'était, notamment à De Cazeville, mais même ailleurs. On le constate encore aujourd'hui dans les appels qu'on a, etc. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On assimilait ça à des formes plutôt de tags, de graffiti. Les gens pensaient plutôt à de la détérioration, ne pensaient pas que c'était devenu ce que c'est devenu maintenant, quoi. En fait, qui maintenant est prisé par les plus grandes capitales, par les plus grandes salles d'exposition, les plus grands musées, etc. Mmh. C'est vraiment très, très demandé. Vous n'avez qu'à allumer votre téléviseur et regarder les publicités. Vous avez toujours un fond graffiti, un fond... Donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et nous, on n'avait pas forcément... Nos publics, nos populations n'avaient pas forcément connaissance de ce que c'était. Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on venait justement apporter aussi ce côté d'éducation... ce côté de médiation en fait, de transmission de ce qu'est le courant artistique actuel dans l'espace public, donc pour tous. Et ça aussi c'est hyper important, c'est que quelle que soit votre origine, vos revenus, etc., vous accédez à l'art. Tant quand l'artiste crée, c'est ce qui est passionnant à voir, et que aussi bien après, quand l'artiste est parti et a fait sa fresque.
Une belle fenêtre, hein. Alors sans encourager à la désobéissance civile, mais tout de même ça donne naissance à de beaux projets, le petit pas de côté, être légèrement et artistiquement désobéissant. Mirsa, peut-être un petit mot de complément à rajouter sur la vision aussi culturelle de Nicolas Viala.
Oui, alors en fait, c'était aussi rebondir sur ce que disait Nicolas, sur la méconnaissance de ce mouvement artistique et le street art. Je pense qu'il y avait une approche très esthétique de cet art-là, mais une méconnaissance totale du côté spectacle vivant. et du côté émotion au moment de la création de l'œuvre et de cette particularité et ce privilège presque de pouvoir assister à la création d'une œuvre. Et je pense que c'est quelque chose qui n'était pas du tout appréhendé et qui a fait aussi la force de ce mouvement-là, de cet événement, et qui fait aussi aujourd'hui que ce sont des témoignages, ce sont des émotions qui sont revécues par les gens du territoire, et c'est ce qui en fait aussi la force.
Alors la création génère une émotion, mais la décrépitude aussi, et ça, en aparté, on en a discuté un petit peu, c'est vrai que vous êtes plutôt pour laisser aller, alors c'est pas éphémère, puisque ça existe encore aujourd'hui, mais pour laisser aller le temps sur ces plus de 20 fresques qu'on peut découvrir à Decazeville. Moi, ça me fend le cœur d'entendre ça, d'abandonner un projet qu'on aimerait voir durer dans le temps, mais vous avez des idées autour de ça, ça fait partie de votre mission, Mirsa.
Oui, alors, c'est pas de la décrépitude et c'est pas laisser aller les choses, c'est le temps de vie. Vous allez voir un concert, le concert il a un temps de vie, il a une durée limitée et après vous allez vivre avec ces émotions de ce concert-là.
C'est organique.
Voilà, et puis vous allez réécouter les morceaux que vous avez écoutés dans le concert, que vous avez vu, et vous allez vous en souvenir, vous allez pouvoir vous remémorer les émotions, il y aura un souvenir dans votre corps de ce que vous avez pu vivre à ce moment-là. Oui. C'est la même chose avec le street art. On y est moins habitué parce que on a peut-être une approche plus proche du musée avec l'idée de l'éternel, l'idée de la protection. Et là, on est sur un mélange entre du pérenne, mais qui a une vie éphémère un peu longue, peut-être, qui a une durée de vie limitée, disons. Et c'est justement aussi cet apprentissage-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les œuvres vont être amenées à presque disparaître. Et puis, peut-être il y aura d'autres œuvres, peut-être pas, peut-être qu'il y aura d'autres interventions d'artistes. Et c'est justement là où il va falloir travailler avec les gens pour qu'on puisse créer d'autres émotions, d'autres choses.
J'entends parfaitement l'idée, il va me falloir encore un petit chemin et un peu de travail pour l'intégrer, pour vous dire toute la vérité. Allez, parlons de l'actualité, c'est là le coup d'envoi le 3 mai, la semaine prochaine, un premier artiste de notoriété internationale va intervenir sur Cransac. Le montage n'est pas tout à fait le même que sur Decazeville, le festival. Là, c'est pas un festival, on est plus sur des interventions ou des performances artistiques.
C'est ça, tout à fait. Alors, les situations font que on va intervenir sur la ville de Cransac-les-Thermes grâce à un projet qui a été initié par la route et ville d'eau du Massif Central, qui est une structure qui gère l'animation pour les villes thermales et qui, notamment en 2019, avait vu ce projet à Decazeville et avait dit, tiens, voilà, on va proposer à 12 villes thermales un financement pour produire du street art ou alors du mapping sur des murs. Et donc, évidemment, la ville de Cransac a été désignée et sollicitée pour être là, pour pouvoir recevoir ce projet-là. La mairie a été très contente d'avoir un peu de moyens financiers pour pouvoir le mettre en place. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vous proposer à tous une création street art, donc qui va démarrer le 3 mai et qui se finira vers le 11 mai. Une fresque qui sera pérenne sur plusieurs années, là aussi, une dizaine, une douzaine d'années, on ne sait pas, mais pas toute la vie. Et c'est vrai que c'est un élément de fierté de se dire aussi qu'on ne garde pas les choses parce qu'on ne les possède pas. On ne peut pas posséder une œuvre d'art, en fait. On peut juste l'admirer. Après, il faut savoir la rendre
discours tous les deux, j'ai des tremblements, là.
Et non, c'est aussi ça. C'est aussi ça, la vibration. Hein.
Oui, bien sûr.
Ça fait partie de tout ça. Et donc, alors, un street artiste qu'on est très fiers de pouvoir accueillir.
Un Américain, d'ailleurs.
Alors, c'est un artiste français, n'est-ce pas?
On a une petite piste.
Ouais, c'est un artiste français, mais par contre, c'est évidemment le cas. Il a fait ses passes d'armes et son apprentissage aux États-Unis, dans des crews américains. Il a été exposé aux États-Unis, à San Francisco, à Denver, à Los Angeles, etc. Et c'est ce qui a fait que, quelques années après, quand il est revenu en France, il a été directement reconnu comme un artiste international de haut niveau. Voilà, donc c'est plutôt un muraliste qui va venir. Alors, pour ceux qui comprendront. Voilà, donc c'est un mur de à peu près 150 mètres carrés sur un immeuble de 4 étages qui va être fait. Donc la performance va être très belle aussi, sur du coup une dizaine de jours. Et voilà, ça va être vraiment, encore une fois, l'opportunité de revivre des émotions. Mmh. L'opportunité de recevoir la population aussi, et d'être en relation avec elle, de pouvoir parler de culture, parler d'art. L'opportunité de parler de l'histoire aussi de Cransac, parce que Cransac, c'est pas non plus anodin, c'est aussi une ville culturelle, hein, l'air de rien, avec la triangulaire de Joël Curling, le musée des mémoires. Il y a quelque chose de très fort. Il y a les mineurs, évidemment, qui ont laissé leurs traces, mais
la
aussi
la lyre de Casse-Villoise aussi.
Alors voilà, il y avait tout cet esprit de bandas, de musique aussi qui se jouait dans les rues. Il y a tout ce côté aussi naturel, parc naturel, qui est un petit poumon sur le territoire, là aussi, avec les acacias, plus grandes forêts d'Europe, etc. Donc c'est vrai que si les gens viennent, ils pourront aussi aller à Decazeville voir le projet street art, mais se promener, prendre l'air, parce qu'on va en avoir besoin, forcément, quand on pourra de nouveau se déplacer. Donc ça va être, et là, ouais, j'ai quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment, à chaque fois, l'opportunité de recevoir aussi des enfants, des scolaires, puisque c'est les arts, on est dans les arts visuels, dans des pratiques d'art aussi au niveau des écoles, des parcours d'éducation artistique qui a été monté. On a déjà reçu plus de 4000 enfants sur le temps scolaire quand même. Et là, c'est toujours un grand bonheur de voir des petits projets après qui naissent dans les établissements scolaires.
Avec des actions de médiation, des œuvres collectives.
Voilà, c'est aussi ça. Et on nous a bien fait comprendre qu'actuellement, les enfants avaient besoin de sortir et de vivre quelque chose de collectif. Puisqu'on est tous un peu maintenant isolés du fait de la Covid.
Chouette alors, en tout cas, pour le projet et puis le Murmure Festival de Casseville, tout comme ce qui va se passer à Cransac, ouais. On peut sortir, c'est en extérieur, et
c'est
puis
ça.
Les choses sont facilitées là pour le coup. C'est le petit plus du street art. Du 3 au 11 mai,
ouais.
Il y a aussi l'aspect évolutif de l'œuvre, c'est d'y passer tous les jours quand on est à proximité. Ouais. Bon, quand on est villefranchois, on se réserve le week-end. Le lieu géographique, j'imagine qu'il y aura des panneaux dans tous les sens, par-ci, par-là.
Ouais, ça va être un peu discret, parce que c'est assez petit. Alors, Cransac est une ville où, quand même, les choses sont facilement accessibles. Il faut donc aller vers la place du village, et à partir de là, prendre la direction de l'étang de Passelail. Voilà. Et il y a une source qui s'appelle Saint-Augustin, qui est très connue, puisque c'est à partir de là que Cransac est devenue une ville d'eau, il y a très longtemps. Donc, du coup, c'est entre les temps de Passelail et la source Saint-Augustin, sur un immeuble, mais tout le monde sera au courant, les habitants seront au courant, et justement c'est ce que moi j'aime bien beaucoup aussi, c'est voir l'interaction qui se passe entre les gens dans la rue, les gens qui connaissent pas, qui cherchent et donc qui discutent et qui vont aborder différents sujets, etc. C'est ça aussi qui est super.
L'occasion de faire un détour à Decazeville pour prendre un petit plan, ou si on a un smartphone ça marche aussi bien, tout est fait pour nous invités.
Et des offices de tourisme aussi qui seront ouvertes et qui pourront renseigner les gens.
C'est la semaine prochaine, là. C'est lundi, oui. Faut le dire, et puis une deuxième session fin juin, avec un autre artiste, celui-là qui nous vient de Shanghai, je crois savoir.
Pas loin. du coup, là, ouais, on est sur. Alors, on est très fiers avec la mairie de Cransac, encore une fois, de pouvoir accueillir des artistes comme ça. Parce que au début, on se dit, tiens, on est en Aveyron, on est des petits villages, etc. Et on ne sait pas trop si on va pouvoir obtenir des artistes d'une qualité qu'on souhaite, bien que la qualité ne soit pas définie par le lieu géographique. Et là, je vais toujours pas citer le nom de l'artiste, mais c'est quelque chose de très très fort. Un artiste qui va encore nous amener ailleurs, nous présenter encore une autre esthétique, avec une façon de peindre qui moi me sidère positivement, tellement c'est beau à voir, avec du spray et que de la bombe uniquement, alors que la semaine prochaine ça sera uniquement de la peinture acrylique au pinceau. Et là voilà, ça sera très exceptionnel aussi et une vraie performance à venir regarder.
Du 25 au 30 juin pour la seconde performance. Je parlais du montage qui ne se fait pas du tout de la même manière. Là c'est vraiment la mairie de la ville de Cransac qui porte le projet. Ensuite c'est j'ai complètement oublié, c'est les routes de l'eau, la route des villes d'eau du
massif central.
Et enfin de Casseville Communauté qui par son savoir-faire aussi et puis
Le service culture voilà qui investit aussi de par l'expérience acquise et les bons conseils.
Merci à Moreau. Dromard, est-ce qu'on peut imaginer un plan de bataille de type une fresque sur les 12 communes de la communauté de communes de Casseville? Ça serait un plan de bataille idéal, non? Non, pas du tout. Non, c'est pas l'idée. Alors, faut tout abandonner, faut laisser partir à volo les fresques.
Absolument pas. L'idée n'est pas à penser de cet ordre-là. Enfin, du moins, c'est pas tout à fait le bon ordre. C'est-à-dire que l'idée de mettre une fresque dans chaque commune, c'est à un moment calquer quelque chose sur n'importe quel territoire sans prendre en compte ce qui peut y avoir dans la commune, la spécificité de la commune, la spécificité de sa géographie, de son histoire. Alors, imaginez une intervention artistique dans l'espace public, dans chacune des communes du territoire, sûrement, avec le temps, et avec les gens qui y vivent, encore une fois, je reviens toujours au territoire, et c'est une chose très très importante. Il faut créer du sens, c'est-à-dire que il faudrait que cette intervention artistique, elle soit vivante, qu'elle soit créatrice de sens pour les gens qui vivent sur ce territoire-là. Qu'elle ait aussi une esthétique qui puisse s'accorder dans l'environnement public. C'est-à-dire que ça peut être une esthétique qui peut choquer, mais il faut aussi mesurer cette histoire de choc ou de contraste, on va dire, plutôt. C'est l'idée de trouver l'esthétique qui va s'accorder avec... Si on est dans un paysage totalement rural, une forêt, par exemple, c'est trouver une esthétique qui puisse s'inscrire dans cette forêt-là. Si on est dans un contexte beaucoup plus urbain, c'est comment imaginer une intervention artistique dans l'espace urbain. Mais c'est pas du tout de calquer. Donc il va falloir du temps, il va falloir prendre patience aussi pour que tout ceci puisse être un moteur et pour les gens qui sont là et aussi un moteur d'attractivité et que ça ne devienne ça devienne une envie et un partage et que ça ne soit pas du tout un zoo.
Ben voilà, parfait. On peut peut-être conclure là-dessus. Voilà, le bien-être des citoyens pour en revenir à ça. Et puis le fait de prendre du plaisir avec une chouette et belle proposition artistique. Murmure, l'événement street art retentissant lancé en 2019 et qui continue de faire du bruit sur le bassin. C'est à Cransac. Première slave du 3 au 11 et la seconde mai, la semaine prochaine donc. Et la seconde plutôt fin juin du 25 au 30 juin avec un artiste français mais qui s'est formé aux États-Unis et un autre qui nous vient de Shanghai pour la deuxième. À nous de nous déplacer pour savoir à qui vous avez lancé l'invitation. Merci Nicolas Viala et merci Mirsa Moreau Dromard d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup.
Voilà. Merci.
Merci à vous.
CFM, le mag.